Allume la science, la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ses mots.
Allume la science.
Et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. Et pour commencer, Aline, vous êtes prête? Et pour commencer, je vous donne un chiffre. 32. Ça t'évoque?
Le nombre de dents d'un humain adulte.
Oui, mais non.
Le département du Gers?
Pas mal, mais toujours pas.
L'année de naissance de ta grand-mère, Lucie.
Je sais pas comment tu sais, mais oui, mais c'est pas ça.
Bah, 32, v'là les flics?
Ok, on s'arrête là. 32, c'est le nombre de jours sans pluie consécutif que la France a connu entre janvier et février. Un triste record selon Météo France, qui n'avait jamais enregistré une telle série depuis le début des mesures en 1959. Dans les Pyrénées-Orientales, la situation est même si préoccupante qu'en février dernier, la préfecture décidait de placer l'ensemble de ses communes en état d'alerte renforcée. Autrement dit, on garde l'eau pour des usages considéré comme essentiel, donc plus de piscine, plus de lavage de voiture, plus d'arrosage de stage, évidemment. Une sécheresse qui survient dans un contexte, où les déficits d'eau se font récurrents depuis août 2021, mais surtout une sécheresse qui survient en plein hiver, période où normalement les nappes se rechargent et atteignent leur niveau maximum. Alors certes, depuis quelques jours, l'eau tombe à nouveau du ciel, mais pas sûr que cela suffise à éviter aux Pyrénées-Orientales de se retrouver placées au seuil ultime, celui de crise, où l'usage de l'eau serait alors strictement réservé à l'alimentation en eau potable et aux usages liés à la salubrité, la santé et la sécurité. Face à cette pénurie d'eau, d'autres pays ont pris les devants, au sud notamment. Ils s'intéressent depuis des années, non pas aux différentes danses de la pluie, mais à la reuse ou réute. Notre invitée est chercheuse à l'Institut européen des membranes, l'IEM, et elle est spécialiste de la reuse. Julie Mandré, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue dans Allume la science. Alors, depuis qu'elle connaît le thème de l'émission, elle ne se lave plus, ne va plus à la piscine, fait cuire ses pâtes dans du lait et boit même le pastis sans eau. Avec moi, comme chaque semaine, pour mener cette interview, Aline Perriot.
Bonjour.
En deuxième partie d'émission, nous vous emmenons à l'Institut européen des membranes, on en parlait, et plus précisément à la halle de filtration membranaire avec Omar Samari, chercheur postdoctorant. Enfin, notre invité de dernière minute nous vient de la faculté d'éducation. Il s'appelle Brahim Azaoui, il est maître de conférences et il nous parlera des journées d'études, petite enfance, langage, multimodalité et plurilinguisme. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55.
Alors, pour commencer, Julie Mandré, la reuse ou réute, je crois que ça veut dire la même chose. Qu'est-ce que c'est? J'imagine que c'est pas récupérer l'eau de la machine à laver, donc en quoi ça consiste?
Alors déjà, c'est vrai qu'on dit reuse à l'international et reute en France pour réutilisation des eaux usées traitées. Alors, quand on parle de la reute, en général, actuellement, on parle de la réutilisation des eaux usées en sortie de station d'épuration. Mais c'est vrai qu'il y a aussi possibilité de réutiliser les eaux grises au sein d'un bâtiment.
Alors, justement, les eaux usées, les eaux grises...
Le circuit normal de ces eaux-là, justement, on parle d'eau grise, on ne sait pas toujours ce que c'est. Quand elles arrivent dans la station d'épuration et qu'elles ne sont pas justement envoyées en retraitement, c'est quoi le circuit des eaux usées après la station?
Bon, je vais repartir de la base. On prélève de l'eau dans le milieu, on la potabilise, elle est distribuée aux usagers, aux entreprises, puis elle est collectée, c'est l'assainissement, et là, elle est toujours traitée. Puis, jusqu'à de nombreuses années, elle était rejetée dans le milieu naturel. Et là, on répondait déjà à des normes de traitement. Et si on veut faire de la réutilisation des eaux usées traitées, on peut appliquer un traitement ou non pour, au lieu de la rejeter dans le milieu naturel, lui appliquer un usage comme l'irrigation agricole, par exemple, qui est le plus répandu.
Donc, pour la reuse, on recapte l'eau donc en sortie de station d'épuration?
On la prend directement en sortie plutôt de la rejeter.
Ok, d'accord. Et question que je voulais poser et que je n'ai pas posée, quand on parle des eaux grises et des eaux usées, c'est quoi exactement alors?
Il y a les eaux usées domestiques qui sont issues des stations d'épuration. Les eaux grises, c'est vraiment juste au sein d'un bâtiment, c'est les eaux de la machine à laver, de la douche, de cuisine. Voilà, ça c'est les eaux grises. Tout sauf les eaux de toilette en fait.
Et vous avez parlé de traitement tout à l'heure. On sait qu'il y a plein de polluants, perturbateurs endocriniens, pesticides, de résidus qui peuvent être dommageables pour la santé humaine dans ces eaux-là. Est-ce qu'on est capable techniquement d'éliminer tous les polluants pour les rendre réutilisables sans impact pour la santé humaine ?
Oui, on est capable techniquement, mais on est loin de pouvoir l'appliquer sur toutes les stations, puisque c'est un coût énergétique très très important. Et donc, actuellement, dans la réglementation, on va juste trouver des normes sur des paramètres qui ne sont pas ces micropolluants, type pesticides et résidus médicamenteux.
Et un peu plus dans le détail, comment est-ce qu'on fait pour les filtrer, justement, toutes ces substances ? Est-ce qu'on passe par des filtres physiques, des filtres, quels sont les procédés qui sont mis en œuvre ?
Il y a des procédés physiques et chimiques. Physique, on va trouver plus l'adsorption sur charbon actif, la filtration membranaire, et plutôt chimique, on va avoir surtout l'ozonation. Voilà, c'est les trois procédés à peu près que...
Et l'ozonation, on peut en dire quelques mots ? On ne se représente pas bien en quoi ça consiste comme procédé ?
Alors, c'est l'utilisation d'un gaz, l'ozone, qui va oxyder les molécules, donc briser des liaisons. Et si on minéralise totalement, on va se retrouver avec CO2 plus H2O. Mais on va pas tout le temps jusqu'à la minéralisation. Et le problème de l'ozonation, c'est qu'on peut générer des sous-produits qui peuvent être parfois plus toxiques que les molécules mères. Donc, il faut aussi se méfier quand on l'applique.
Alors, cette eau réutilisée, est-ce qu'on la destine à des usages en particulier ou est-ce qu'on peut, on peut la consommer comme une eau, j'ai envie de dire, normale ?
Alors, l'eau réutilisée... Alors, du coup, mes travaux, moi, portent plus sur la réutilisation des eaux usées traitées en sortie de stations d'épuration. Je ne travaille pas sur les eaux grises. Donc, ces eaux usées en sortie des stations d'épuration... À l'échelle internationale, l'application la plus générale, c'est l'irrigation agricole. Et c'est le cas aussi en France. Mais il y a d'autres usages qui sont les usages urbains, comme les nettoyages de voiries, l'hydrocurage des réseaux. Donc l'hydrocurage, c'est nettoyer les réseaux. Souvent, on fait ça avec de l'eau potable actuellement. Et on a aussi la lutte contre les incendies. Et on peut même imaginer recharger des nappes phréatiques avec des eaux usées traitées.
Et oui, ça, on y reviendra en fin d'émission.
Juste une précision sur l'usage agricole et l'irrigation. Tous ces polluants qu'on va retrouver dans l'eau et qu'on ne peut pas forcément enlever, est-ce qu'on ne les retrouve pas après dans les fruits et légumes qu'on peut faire pousser avec ces eaux-là, justement ? Il y a des contrôles sanitaires pour ça ?
Non, pas sur ces paramètres. Alors, il y a des études scientifiques, des publis, des articles, mais les contrôles sanitaires ne portent pas sur ces paramètres-là. Ils sont plus sur les pathogènes en particulier. La réglementation, elle a vraiment pour but de protéger du risque bactérien. Donc, y a, pour l'irrigation agricole et l'arrosage des espaces verts, on est réglementé en France depuis 2010. Et il y a quatre qualités d'eau qui sont définies, suivant l'usage qu'on va appliquer. Si on va arroser des cultures consommées crues, c'est un usage plus exigeant. Et du coup... on va quand même retrouver des micropolluants, mais plusieurs études ont montré qu'en fait, le risque pour la santé est minime. Pour des applications de potabilisation, c'est-à-dire pour consommer l'eau, là, ça va être plus problématique. Mais ce n'est pas encore vraiment le cas en France. Ce n'est pas l'usage qui est appliqué principalement en France.
Et justement, ces usages dont on parle, ils nécessitent un traitement. Ce traitement, on imagine qu'il a un coût au niveau économique. Est-ce que c'est plus intéressant d'utiliser de l'eau qui est passée par le filtre de la reuse ou de la reute que d'utiliser de l'eau du réseau commun ?
Bah, c'est bien le problème. C'est une des raisons pour laquelle la reuse n'est pas si répandue que ça en France. Pour la principale application qui est l'irrigation agricole, les agriculteurs ont bien souvent... à disposition ce qu'on appelle des eaux conventionnelles de type eau de surface ou de forage, qui sont encore bien moins chères que les eaux usées traitées. Puisqu'on doit effectivement, en général, c'est très rare qu'on puisse utiliser l'eau telle qu'elle en sortie de station, il va falloir appliquer au minimum un traitement pour atteindre les qualités visées. Mais la prise en charge de ce coût n'est pas encore bien claire. Et en France, on n'a pas encore de modèle économique de la réutilisation des eaux usées traitées. Il faudrait mettre en place des subventions, des incitations financières. Et ce n'est pas encore le cas.
Alors, vous avez signé une tribune dans le journal Le Monde, la semaine dernière, il me semble, où donc, vous évoquez la lourdeur des processus d'autorisation comme frein à la reuse, notamment en France. Alors, vous y avez répondu un petit peu, mais on a effectivement plus de freins que dans d'autres pays en France ?
Oui, en France, jusqu'à présent, la durée moyenne de constitution d'un dossier de reuse, c'était 5 ans, entre le moment où vraiment on décide de commencer le projet. Pour avoir l'autorisation préfectorale, ça peut prendre au minimum 5 ans. Donc c'est quand même assez dissuasif pour les porteurs de projets. Mais en fait, vu les annonces du gouvernement ces derniers mois, on peut quand même espérer qu'elles vont être simplifiées. Mais du coup, quand je suis interrogée sur ce point, j'insiste quand même sur le fait que c'est important de réglementer la réutilisation des eaux usées traitées, puisque les eaux usées contiennent des agents pathogènes et qu'il est important qu'il y ait une réglementation. Mais c'est plutôt tout ce qui est administratif, toutes les lourdeurs administratives autour de la constitution des dossiers qui pourraient être allégées.
Alors justement, qui peut constituer un dossier par exemple ? C'est à la charge des municipalités, des métropoles par exemple ?
Oui, tout à fait. Oui. Des maîtres d'ouvrage, oui, voilà, c'est ça.
Oui.
Et parmi les autres freins que vous évoquez dans cette tribune, vous parlez de l'acceptabilité sociale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que globalement, les gens, si on leur dit l'eau que vous avez là, soit au robinet, soit qui a été utilisée pour arroser la tomate que vous mangez, elle provient d'une station d'épuration et elle a été traitée. Est-ce que les gens sont réticents à l'idée de cet usage-là ?
Oui, et souvent ça vient d'une mauvaise connaissance des cycles de l'eau. Et donc quand on va dire, voilà, elles sont arrosées avec des eaux usées traitées, ils ont l'impression, ils n'entendent pas le mot traité en fait. Et ils ont l'impression que c'est l'épandage, l'irrigation avec des eaux brutes, comme ça a pu se faire il y a plusieurs dizaines d'années. Où là, effectivement, on avait des épidémies de choléra, de gastro-entérite. Là, il y avait un vrai risque sanitaire. Dans l'esprit des gens, ce n'est pas clair. Donc, ils confondent avec ça. Et il peut y avoir une réaction de rejet et de dégoût. Mais souvent, il y a pas mal de personnes qui citent l'exemple de personnes qui consomment des tomates qui viennent d'Espagne. Sans savoir qu'elles sont pour la plupart irriguées avec des eaux usées traitées. Donc finalement, ils consomment des produits irrigués par des eaux usées traitées.
C'est donc une pratique qui est généralisée dans d'autres pays. Donc au niveau acceptabilité sociale, ça veut dire qu'il y aurait un travail à faire pour pouvoir aussi en France faire accepter l'idée qu'on utilise ces eaux-là.
Oui, c'est vraiment... les projets doivent s'accompagner de beaucoup de communication, de pédagogie autour de cette pratique pour qu'elle soit acceptée. Donc là, c'est vrai que je cite souvent l'exemple de Singapour, où ils étaient vraiment dans une situation critique et ont dû se tourner vers la réutilisation des eaux usées traitées, entre autres, pour cette fois-ci de la potabilisation. Donc ce n'est quand même pas évident au niveau acceptabilité. Et il y a eu un énorme travail de pédagogie, de communication, programme éducatif. Et c'est maintenant totalement accepté.
Alors, vous expliquez donc toujours dans cette tribune du Monde, vous expliquez que la reuse est plus pertinente dans certaines zones comme les zones littorales. Alors, pourquoi ?
Oui, alors tout simplement parce que sur les zones littorales, les stations d'épuration rejettent souvent leurs effluents en mer. Et donc là, c'est complètement une perte d'eau douce. Donc, en évitant de les rejeter, en pratiquant la réutilisation des eaux usées traitées, on va faire ce qu'on appelle l'économie circulaire de l'eau, on va préserver cette ressource. Et un bénéfice secondaire, c'est que dans ces zones-là, les nappes, lorsqu'elles sont quand elles sont trop prélevées, le niveau trop bas d'une nappe va entraîner la remontée de ce qu'on appelle le biseau salin, qui peut contaminer ces ressources avec des intrusions salines. Donc, en faisant la réutilisation traitée, on limite les prélèvements dans les nappes et on limite du coup ces intrusions salines.
Quand vous parlez justement des rejets en mer, c'est ce qu'on a justement à Montpellier avec l'émissaire, c'est ça, non ?
Oui.
Ouais, d'accord.
Oui. Mais la station, ils sont en train de revoir complètement leurs usages et ils vont faire de la réutilisation des eaux usées traitées.
Ah, très bonne nouvelle.
Et vous dites aussi, du coup, dans cette même tribune, que c'est moins adapté aux zones continentales, cet usage. Pourquoi, du coup, est-ce que c'est moins adapté ?
Alors, du coup, dans les zones continentales, on rejette les effluents dans les cours d'eau. Et bien souvent, ces rejets participent de manière significative au soutien d'étiage, qui est le fait de maintenir un débit minimum dans le cours d'eau pour protéger les écosystèmes et la biodiversité en aval. Donc si on fait la réutilisation des eaux usées traitées, on peut priver le cours d'eau de cet apport et nuire aux écosystèmes plus bas.
Alors, vous en avez parlé un peu tout à l'heure en parlant des tomates qui provenaient d'Espagne ou de Singapour. Est-ce qu'il y a d'autres pays dans lesquels la reuse est une pratique plus courante qu'en France ?
Oui, il y a l'Italie. Bon, l'Espagne, on est à 14% environ, l'Italie 8% et la France à moins de 1%. Et puis, il y a Israël où on est à plus de 80% de réutilisation des eaux usées traitées.
Et du coup, comment est-ce qu'on l'explique, ce retard français ? On a parlé de législation, on a parlé d'acceptabilité sociale. Est-ce qu'il y a d'autres freins ou d'autres explications historiques qui font qu'on est à 1% contre 14% en Espagne, qui est un voisin européen ?
La principale explication, c'est que jusqu'à présent, on n'a pas manqué autant d'eau que ses voisins. Donc, c'est vraiment la première explication. Voilà. La toute première explication.
C'est qu'on n'est pas encore au pied du mur, en fait.
Voilà.
C'est ça.
Voilà.
Alors, vous travaillez aussi sur un projet qui consiste, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, qui consiste à recharger donc, les nappes phréatiques avec des eaux usées retraitées. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ce projet ?
Oui, alors c'est vraiment un projet de recherche, hein, donc on n'est pas du tout en train de recharger une nappe dans ce projet. On est à l'échelle laboratoire, donc il est financé par la région Occitanie. C'était un appel à projet recherche et société, hein, ça c'est l'intitulé de l'appel à projet. Et ça m'avait paru pertinent justement pour la réutilisation des eaux usées traitées, puisque c'est un projet qui associe bon, les sciences dures avec des sciences humaines. Donc on est avec l'Université de Nîmes et le laboratoire Chrome qui va s'occuper à la fois de l'analyse de polluants mais aussi des enquêtes de perception du risque par les usagers. Et donc dans ce projet, je me suis aussi associée avec des géologues, hydrogéologues et des gens de Perpignan du laboratoire Promesse qui font de la photocatalyse, donc qui est un autre procédé que ceux que moi je teste à l'Institut européen du membrane, à savoir... la nanofiltration, donc une filtration membranaire, et l'ozonation. Et donc l'objectif, c'est de prendre une eau en sortie de station d'épuration, de lui appliquer un traitement, on va en faire plusieurs, on va regarder en parallèle, on va comparer, et de suivre la dégradation des molécules ou l'élimination des molécules, mais il en reste quand même, et on les envoie dans des colonnes de sédiments et on va regarder comment le sol contribue à abattre ces molécules. Pour voir si, en rechargeant la nappe, on va essayer de limiter l'apport de pollution.
Est-ce que c'est des pratiques qui existent déjà ailleurs ou c'est complètement inutilisé, ces procédés, pour l'instant ?
Si, le fait de recharger un aquifère avec des eaux usées traitées, c'est très utilisé en Australie, en Californie. On peut le faire de deux manières. Soit on va faire une injection directement dans la nappe avec un forage, soit on profite de la capacité du sol, justement, qui est riche en matière organique, à dégrader, à contribuer à affiner le traitement. Voilà, c'est ce que je propose dans ce projet.
J'ai une dernière question, il nous reste une petite minute avant de finir. Vous l'avez dit, on n'est pas encore au pied du mur. Du coup, est-ce qu'on a d'autres solutions en fait, que la rayeuse ? On voit bien qu'on va par contre dans le mur au niveau de la ressource en eau. Il faut y aller vers la rayeuse. Il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui.
Oui, alors il faut y aller. Mais dans la tribune, justement, je voulais insister dessus sur le fait que ce n'est pas la solution qui va pallier au manque d'eau et à la sécheresse, qui va pallier ce manque d'eau. Donc la première solution, c'est la sobriété. Ça, c'est sûr. Donc, voilà.
Et pourquoi, en fait, ce n'est pas la solution ? C'est parce que ça n'apportera pas de toute façon, on consomme trop, c'est ça ?
Voilà, ouais. Ouais, c'est ça.
Très bonne conclusion. Merci beaucoup, Julie Mandré.
Merci à vous.
C'était passionnant. Et on passe maintenant à notre séquence reportage. Aline, où nous emmènes-tu ?
Eh bien, je vous emmène, comme on l'a dit tout à l'heure, de nouveau à l'Institut européen des membranes, et plus précisément à la halle de filtration membranaire. C'est un plateau qui permet de mettre en œuvre différentes techniques de filtration, de l'échelle paillasse à l'unité pré-industrielle. Et c'est Omar Samari, chercheur post-doctorant à l'IEM, qui nous montre comment on peut dessaler de l'eau de mer pour en faire de l'eau potable grâce à l'osmose inverse.
Je m'appelle Omar Samari, j'ai 30 ans, et je suis post-doc à l'Institut européen des membranes depuis ces... C'est ma troisième année. Et je travaille sur le dessalement de l'eau de mer. J'ai fait une thèse sur le dessalement et je travaille ici sur le dessalement de l'eau de mer.
Et alors là, on est. Est-ce que tu peux nous dire où on est ?
Là, on est dans la hall des pilotes. Du coup, c'est une salle où on a mis tous les pilotes. Et le but, c'est, vu que les pilotes sont un peu brouillants, le but, c'est de vraiment les mettre ici et de les isoler pour ne pas déranger les gens dans les bureaux ou dans leur labo.
Et alors, le pilote qu'on va voir aujourd'hui, est-ce que tu peux nous décrire ce qu'on voit, ce qu'on a devant nous ?
Ok, du coup, le premier pilote, c'est un pilote conçu pour le dessalement d'eau de mer. Il faut savoir que pour dessaler l'eau de mer, avec la technique que nous on fait, l'osmose inverse, c'est la technique la plus répandue dans le marché. Il faut savoir que c'est la technique de dessalement qui consomme le moins d'énergie. Et du coup, nous, on est vraiment spécialisés dans cette technique-là. Et du coup, le but, c'est de passer l'eau de mer dans un filtre en polymère pour enlever le sel. Et du coup, on fait de l'eau de mer. L'eau de mer, en effet, il est, il est, Il contient 35 grammes par litre de sel. Et du coup, pour le dessaler, il y a ce qu'on appelle une pression osmotique. Et du coup, il faut beaucoup de pression pour pouvoir que, en fait, pour que l'eau il passe à travers le filtre et qu'il soit filtré. Donc, on monte à des pressions assez énormes, entre 40 et 60 bars. Et en fait, on est vraiment plus vers 60 bars que vers 40. Et du coup, pour pousser l'eau à 60 bars, on a besoin d'une bonne installation. Et du coup, un pilote se compose d'une pompe qui, elle, fait la poussée de l'eau. C'est l'élément le plus important. Après, on a une cuve où on met notre eau salée, où on peut le garder. Après, cette cuve-là est liée à un système de refroidissement parce que lors de la filtration, l'eau elle peut chauffer avec les frottements. Donc, il faut vraiment garder une température ambiante sur tout le système pour nous, après, pouvoir faire nos essais et que ça soit avec une précision telle. Par exemple, nous, on fait tous nos tests à 25 degrés pour ne pas avoir à prendre en compte des éléments qui peuvent se passer. Et du coup, et après, on a ce qu'on appelle notre cartouche, ou l'endroit où on met notre membrane ou notre filtre pour pouvoir filtrer. Et du coup, le but, c'est de pousser l'eau qui est dans la cuve vers la membrane. Et quand c'est poussé vers la membrane, on a deux sorties. On a une sortie du perméat qui est le conduit avec lequel on va récupérer le filtre, l'eau qui n'est pas salée. Et on a ce qu'on appelle le retour, ou nous, on l'appelle le rétentat. Du coup, c'est l'eau qui n'a pas été filtrée et qui doit revenir vers la cuve. Et on fait ça d'une manière perpétuelle jusqu'à ce qu'on filtre ce qu'on a infiltré.
Et donc là, il y a un entonnoir en plastique au-dessus de la cuve dont on a parlé tout à l'heure. On met l'eau salée là, et où est-ce qu'on récupère l'eau douce du coup ?
Oui, en fait, on a mis un entonnoir pour pouvoir mettre l'eau salée. Et c'était réfléchi comme ça pour pouvoir tout fermer. Parce que des fois, on avait des anciens pilotes comme celui-là qui est moins puissant, qui était ouvert. Et en fait, on a découvert que des fois, on veut filtrer autre chose que l'eau de mer, et ça peut être sale, on peut avoir des polluants, et du coup, c'est mieux de pouvoir fermer tout le système pour ne pas déranger les autres et pour ne pas avoir des odeurs qui peuvent sortir. Et du coup, le but de l'entonnoir, c'est de ne pas verser à travers et de bien viser, du coup. Et oui, l'entonnoir, elle se trouve en haut de la cuve, et on récupère notre perméat ici. Et c'est là où se trouve la membrane à l'intérieur. Et là, le perméat, il sort par là. On peut le récupérer. Et le rétentat, il passe. Et le rétentat, c'est l'eau non filtrée qui passe et qui peut revenir vers la cuve.
Et est-ce que c'est quelque chose qui se fait déjà à échelle industrielle, de filtrer de l'eau salée, par exemple de l'eau de mer, pour produire de l'eau potable ?
Oui, c'est largement fait depuis les années 70-80. En fait, cette technique précise, c'est une technique qui a été découverte dans les années 60-65. Et c'était la NASA qui avait fait cette découverte pour pouvoir justement filtrer l'eau dans les stations spatiales. Et après, de fil en aiguille, on a découvert que ces filtres-là, ils pouvaient non seulement filtrer nos eaux salées, pas le sel, mais avec des saletés, du coup. Et du coup, on pouvait aussi filtrer de l'eau salée. Et depuis, il y a beaucoup d'usines qui font ça. En Europe, c'est très répandu en Espagne. Surtout dans la côte est-sud, de la Catalogne jusqu'au sud, quoi. Au Portugal aussi. Il y a les pays scandinaves qui ont ces techniques-là. Pas pour filtrer l'eau de mer, mais pour filtrer ce qu'on appelle l'eau somate. Parce que des fois, l'eau qu'on a dans les rivières, dans les puits, c'est des eaux salées aussi. Et on a besoin aussi de les dessaler pour pouvoir les boire. En Europe, il y a ces pays qui font le dessalement. En Afrique, toute l'Afrique du Nord dessale depuis un moment, parce que sinon, ils seront dans un souci. Et moi, je connais la question, vu que je suis marocain et que j'ai travaillé au Maroc, et je sais que c'est des questions extrêmement sérieuses dans ces pays-là, parce que dans 10-15 ans, il y aura des sacrés soucis. Et je peux même vous dire qu'en ce moment, dans des pays, il y a des interdictions de faire des avocats, des, des fruits qui consomment beaucoup d'eau parce qu'on a tellement un besoin et qu'on a enfin compris que l'eau est sacrée et qu'il y a même des stations de lavage dans des pays comme dans des pays en Afrique comme l'Algérie, comme le Maroc qui peuvent être fermés parce qu'ils consomment beaucoup d'eau. On est arrivé là en 2023 et imaginez en 2030, en 2040. Et après, on a dans le Moyen-Orient. Dans le Moyen-Orient, c'est une technologie qui est faite depuis 40 ans. Et il y a des pays comme le Koweït, comme l'Arabie Saoudite, comme Dubaï, comme Qatar, qui ont leur eau propre est 80% en plus venue du dessalement. Donc on peut imaginer qu'il y a des pays qui vivent de ça. Et c'est une technologie qui est fiable. Et nous, en fait, notre but dans cet institut, c'est d'encore améliorer ces filtres pour économiser encore de l'énergie. En fait, le but, c'est de faire en sorte que ces filtres nous sortent plus de flux, plus de perméas, qu'ils passent beaucoup d'eau qu'avant pour pouvoir économiser l'énergie, en fait. C'est ça notre but ultime, ce qu'on fait ici. Et aussi en Amérique, en Californie, par exemple, à la côte ouest, tout est fait en dessalement parce que là-bas, le climat est un peu aride, il n'y a pas beaucoup d'eau, et aussi dans l'Amérique du Sud.
Et on passe maintenant à notre invité de dernière minute, Brahim Azaoui, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans Allume la Science. Donc vous êtes maître de conférence à la faculté d'éducation qui organise du 15 au 18 mars 4 journées d'études sur le thème « Petite enfance, langage avec un S, multimodalité et plurilinguisme ». Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous le décrypter un petit peu, ce thème de journée d'études ?
Alors les journées d'études, elles ont été co-organisées avec des collègues, on en parlera certainement après, de l'Université du Mans. Et l'association AFALAC, c'est pour ça qu'elle s'étale sur 4 jours. Pour ce qui est du titre, ça a été une longue discussion, parce qu'en effet, il y a un S à langage. Et dans les discussions, du moins dans les recherches actuelles, la question du langage, très souvent, elle est prise même du côté... Enfin, lorsqu'on réfléchit sur l'acquisition du langage par les enfants, d'ailleurs, on parle du langage par les enfants, on s'aperçoit que finalement, il n'est pas que verbal. Et donc, il y a des types de langage, et c'est finalement l'idée d'intégrer, et c'est pour ça qu'on a, par la continuité du titre, intègre la question de multimodalité, c'est que de montrer finalement qu'il y a différentes manières de s'exprimer, même si évidemment, il y a le langage premier, il est non-verbal d'ailleurs, il est gestuel, mais qu'il y a une diversité de langage, c'est surtout pour cette question-là.
Très bien. Alors justement, ce thème, vous recontextualisez l'acquisition du langage, en tout cas, dans un cadre culturel plus vaste. Vous proposez, à travers ces journées d'études, de donner des clés pour les parents, pour les professionnels de la petite enfance, pour accompagner donc les enfants dans l'acquisition du langage, notamment dans un contexte de migration. Alors, pourquoi, en fait ? Quelles sont les pratiques qui peuvent aider, justement ?
Alors, là aussi, ça a été une longue discussion, parce que très souvent, à force de focaliser sur les contextes migratoires uniquement, on oublie que finalement, en France également, on a des enfants qui sont d'origine, mais qui sont français. Donc, ça n'est pas que le contexte migratoire, finalement. Mais on s'aperçoit que travailler sur ces populations migrantes en migration installées récemment va nous forcer à réfléchir également plus largement pour les enfants, tout enfant, finalement, qui est scolarisé. Les difficultés, parfois, lorsqu'on réfléchit à ces questions, c'est parce qu'on a une forme d'illusion. C'est qu'un jeune enfant migrant va apprendre très rapidement le français.
C'est exactement ce que j'allais vous dire. On a l'impression qu'en dessous de 10 ans, on apprend tout ce qu'on veut très facilement.
Il y a cette illusion-là, en effet, avec la plasticité cérébrale. Ou alors, on se dit, en un an, c'est chose faite. Mais finalement, il faut facilement entre 6 ou 7 années pour apprendre une langue. Donc, il y a besoin constamment d'un travail continu avec les professionnels de la petite enfance, dès la crèche, de la crèche, ou alors même en famille, pour travailler sur ces acquisitions, quelles qu'elles soient. Ensuite, il y a depuis facilement une trentaine, quarantaine d'années, des travaux qui, même une cinquantaine d'années, des travaux qui essayent de voir finalement comment accompagner les enfants, notamment en contexte migratoire, comment accompagner ces enfants dans l'apprentissage d'une nouvelle langue, tout en respectant finalement les identités qu'il peut avoir au niveau notamment linguistique. Et c'est ce qu'on peut parfois classer dans ce qu'on appelle l'éducation plurilingue. Finalement, toutes ces approches, et Anne-Bert Kruger qui intervient notamment le samedi matin à Montpellier, va aborder ces questions-là en collaboration avec elle sera suivie par une intervention de José Segura de l'association AFALAC Oxitou, et qui intervient également au CASNAV de Toulouse.
Alors justement, donc vous allez recevoir de nombreux intervenants pendant ces 4 jours et vous écrivez sur votre programme que toutes les interventions sont basées sur des études empiriques, c'est-à-dire ?
C'est un mot qui peut paraître pompeux pour finalement dire qu'elles sont basées toutes sur le terrain. C'est-à-dire qu'il y a parfois aussi là également peut-être une illusion, une croyance que, que la recherche elle est nécessairement hors sol. Or, les recherches que l'on effectue, notamment dans l'éducation, vont s'appuyer en grande partie, j'allais dire pour majorité, mais en grande partie sur le terrain. Donc c'est le terrain qui va interroger la recherche et la recherche va retourner sur le terrain. Il y a constamment, comme ça, une activité assez dynamique d'aller-retour entre le terrain et la recherche.
Alors vous avez justement parlé de l'association AFALAC, donc, qui organise avec vous ces journées avec l'Université du Mans. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot du travail de cette association ?
Oui, alors c'est une association, alors AFALAC, Association Famille Langue Culture. Pardon, c'est une association qui, dont la présidente est Françoise Leclerc, qui est évidemment partie prenante de l'organisation de ces journées. Et un peu dans l'idée que j'évoquais tout à l'heure de l'éducation plurilingue, elle cherche à travailler sur les langues des familles pour également pour valoriser ces identités plurielles, comme je l'évoquais tout à l'heure, en intégrant les familles. Donc, ils ont mis en place de nombreux projets. Ils interviennent dans la formation des différents professionnels de la petite enfance, des projets autour des tapis plurilingues dans lesquels des parents, finalement, sont formés au comptage, dans le sens raconter un conte au comptage dans leur langue et montrer que finalement, même lorsqu'on a des parents qui racontent dans leur langue des histoires aux enfants, il y a toujours quelque chose à récupérer, en quelque sorte dans le sens que l'on peut faire de l'histoire qui a été contée, parce qu'il y a notamment des éléments non-verbaux, visuels, matériels qui vont être utilisés.
Alors, donc ces conférences, elles commencent demain, elles sont ouvertes à qui ?
Elles sont ouvertes, j'allais dire, à tout le monde. Et il y a une dimension professionnalisante dans le sens, ou professionnelle, plutôt pas professionnalisante, professionnelle parce que un des publics premiers est, comme je le disais tout à l'heure, les professionnels de la petite enfance. Donc aussi bien les éducateurs jeunes enfants que les auxiliaires de puériculture, que les enseignants d'école maternelle notamment. Donc c'est ouvert, c'est un public très large. On est d'ailleurs en collaboration avec le réseau Petite Enfance de Montpellier ou la GEM pour tout ce qui est école maternelle. Donc c'est vraiment notre public principal pour que finalement ils se sentent impliqués, investis dans toutes ces questions-là. Et évidemment que, comme toute journée d'études, elle est ouverte également aux chercheurs.
Alors, on mettra un lien, il reste encore quelques places, on peut encore mettre un lien, ça sert à quelque chose.
Oui.
Et en plus, elles sont disponibles en visio, je crois, vos
Exactement.
Interventions. Merci beaucoup Brahim Azaoui. Et on espère vous recevoir une prochaine fois pour avoir les conclusions de ces journées d'études.
Avec grand plaisir, merci Lucie.
Merci beaucoup. Allume la science, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Naomi Charmetant pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, d'ici là, restez branchés.
Allume la science. C'est
une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ses mots.
Allume la science.